C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes à Marrakech à l'occasion du 8e Africité, le grand rendez-vous panafricain des villes et des territoires du continent. Plus de 5000 participants, dont 750 maires, sont venus ici pour échanger sur les solutions à mettre en place pour faire face aux immenses défis que sont entre autres la croissance démographique et le changement climatique. Aujourd'hui, 45% des Africains habitent en ville, des villes qui absorbent chaque année plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Et c'est à cette échelle que s'invente la résilience. Le thème d'Africité, la transition vers des villes durables, est un plaidoyer pour que les villes innovent dans leur planification, dans leur gestion des transports, des déchets, de l'accès à l'eau ou à l'énergie. Autant de thèmes qui ont fait l'objet de sessions ici, dans les différentes salles du village Africité, installées sur la place Bab Djadid de Marrakech. Alors, ville durable, mode d'emploi, on en parle avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour José Tonato.
Bonjour.
Vous êtes ministre du cadre de vie et du développement durable du Bénin. Alors on va commencer par le début, par la définition. Qu'est-ce qu'on appelle selon vous une ville durable ?
Une ville durable, vous permettez madame Brun que je prenne ça par le bout le plus pratique que moi j'utilise le plus. Une ville durable, il faut une planification qui adresse toutes les questions de la durabilité, à savoir globalement intégrer le climat et autres. Donc avoir une démarche de planification urbaine qui est cohérente, qui prépare un peu l'intervention des collectivités. Ensuite, réaliser des infrastructures résilientes pour adresser les questions comme l'inondation, la gestion des eaux, la gestion des déchets, apporter des services de qualité. Et dans une troisième dimension, mettre en place une gouvernance qui adresse et qui délivre des services de qualité dans le domaine du transport, dans le domaine de la gestion des déchets et consorts. Si nous avons une bonne planification, si nous avons une démarche cohérente pour réaliser des infrastructures qui répondent aux attentes et qui permettent de faire face aux enjeux urbains que nous avons aujourd'hui, enjeux fortement impactés par les changements climatiques. Et si nous avons en face une gouvernance, c'est-à-dire une municipalité qui a la capacité d'une bonne gestion urbaine, je crois que là, on va forcément vers ce qu'on peut appeler une ville durable.
Alors là, en théorie, c'est parfait. François Yatta, bonjour. Vous êtes le directeur des programmes de cités et gouvernements locaux d'Afrique qui organise Africité, donc ce sommet. Qu'est-ce que c'est une ville durable pour vous ? Puisque c'est le choix de ce sommet.
Une ville durable, c'est une ville où les conditions de vie des populations sont meilleures. Et quand on dit les conditions de vie des populations sont meilleures, c'est un raccourci. Mais comme l'a dit Monsieur le ministre, ça veut dire effectivement en amont qu'on ait une planification qui prend en compte toutes ces questions-là que nous avons de résilience aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, les villes ont plusieurs fonctions. Il y a à se déplacer, se nourrir, donner du travail, donner des loisirs, donner un environnement sain. Et ce sont autant de choses qui se déclinent en différents services publics locaux. Et quand tout ça va, eh bien c'est une ville où les conditions de vie sont effectivement meilleures, où les personnes qui vivent dans ces villes-là ont, au-delà du travail, au-delà des revenus, une qualité de vie qui est meilleure.
Bonjour Bachir Kanouté. Vous êtes directeur exécutif de Enda Ecopop, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Enda Ecopop est une organisation de la société civile qui est au Sénégal, mais qui est active dans plusieurs pays en Afrique, 21 pays au total, et qui travaille sur, effectivement, les notions de ville durable.
Et donc, vous, votre définition ?
Nous, quand nous disons ville durable, nous attaquons par la notion des droits. Vous savez que les citoyens ont un ensemble de droits. C'est des droits économiques. Ils doivent savoir travailler dans la ville. François l'a dit tantôt, M. le ministre aussi l'a dit. Ils ont des droits sociaux. Ils doivent pouvoir participer à la vie publique. Ils ont des droits politiques. Ils ont un ensemble de droits qu'ils revendiquent. Et donc, pour nous, des villes durables, c'est des villes qui satisfassent l'ensemble de ces droits-là, des citoyens.
Alors, à ma droite, Armand Bewindé, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maire de Ouagadougou et le président de l'association des municipalités du Burkina Faso. Alors, la notion de ville durable, on l'a entendu, il y a plusieurs définitions. Ça résonne un peu comme un idéal à atteindre. Mais vous avez les mains dans le cambouis, avec un contexte pas simple à gérer. La ville de Ouagadougou est en pleine expansion géographique et démographique. Dans quelle proportion ?
Dans la proportion de 200 000 habitants par an. et donc une forte démographie. Et dans les 10 années qui viennent, on risque de doubler, la population risque de doubler.
Voilà, la population de la ville va doubler en 10 ans, c'est donc énorme, ça va très très vite. Et donc dans ce contexte, comment est-ce que vous pouvez mettre en place une ville durable avec les critères qui ont été énumérés juste avant ? Qu'est-ce que vous faites pour
Qu'est-ce que nous faisons pour que... Parce que pour moi, la ville durable en concentré, c'est là où le vivre ensemble est une réalité, où on apporte des solutions justement durables aux préoccupations des populations. Donc pour nous, à Ouagadougou, la problématique se pose en termes de transport urbain. Parce que Ouagadougou est reconnue comme étant la capitale des deux roues et ça devient intenable.
Oui, chaque Ouagadougou a sa moto.
A sa moto. Donc notre premier défi, c'est de régler le problème de la mobilité urbaine, hein, avec le développement d'un réseau de bus sur une 30 kilomètres dans la ville. Et au niveau de la planification urbaine, parce que la ville de Ouagadougou s'étend et touche aujourd'hui les 7 communes rurales qui nous entourent. Donc il faut pouvoir faire une planification assez poussée. C'est pourquoi nous avons un projet de mettre en place, avec l'intercommunalité, une agence d'urbanisme du Grand Ouaga. Il y a également ce que nous poussons sous l'impulsion de l'État, le mix énergétique que nous développons pour éclairer nos rues à travers l'énergie renouvelable qui est l'énergie solaire.
Et vous avez une initiative en termes de planification qui est assez intéressante, c'est ce que vous appelez le développement des centralités secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, comme la ville s'étend, plus on habite loin du centre, plus c'est compliqué par exemple de faire ses courses. Et vous vous dites, il faut du coup développer de nouveaux centres-villes ailleurs pour que les populations, même en périphérique, aient accès aux services de base.
Ouais, il faut dire que Ouagadougou s'est développé autour d'un cœur de ville qui constitue l'hypercentre-ville qui attire tous les matins toute la population de la ville. Et aujourd'hui, c'est dans cette centralité que se retrouvent toutes les infrastructures, les ministères, les commerces, les écoles, etc. Et vu comme la ville s'étend, donc nous avons pensé qu'il fallait développer des centralités secondaires, c'est-à-dire équiper des quartiers de périphérie avec un certain nombre d'infrastructures, notamment sanitaires, scolaires, marchés, et qui permettent aux populations d'avoir les services de base sur place où ils vivent.
José Tonato, vous avez le même problème à Cotonou ?
Absolument. Effectivement, la ville de Cotonou a connu un développement linéaire comprimé entre l'océan et le lac Nokwe. Donc nous avons une bande de 4 km de largeur sur près de 40 km de longueur qu'il faut effectivement d'abord desservir avec des services de qualité. Mais la problématique aujourd'hui dans le Grand Nokwe, effectivement, se décline en projet pour nous. C'est-à-dire que la meilleure façon pour nous d'aborder et d'opérationnaliser la décentralisation passe par les projets. Nous savons qu'au-delà de la préoccupation de la planification, l'autre problème principal que les collectivités ont, c'est la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation des infrastructures qui coûtent cher.
On va en parler dans un instant, mais sur cette histoire de planification, par exemple, le marché d'Antokpa, qui est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest.
Quand je parlais des projets, c'est pour arriver à un certain nombre de projets emblématiques qui sont développés aujourd'hui à l'intérieur du Grand Nokwe pour régler cette question de services de qualité. Ça concerne par exemple la modernisation du réseau des marchés urbains. Parce que Gantokpa c'est le grand marché international de Cotonou qui s'étend sur 25 hectares, qui a plus de 20 000 vendeurs, une fréquentation qui avoisine les 100 000 acheteurs par jour.
Et qui déverse ses déchets dans le grand canal.
Dans la lagune de Cotonou, qui sont ensuite drainés, 80% de déchets plastiques drainés dans l'océan. La problématique environnementale à ce niveau est grande. Donc, il ne faut pas seulement déployer un système de gestion des déchets, mais il faut également régler la question de la source de production de ces déchets-là. Et Dantokpa rentre aujourd'hui dans une dynamique où nous avons la construction d'un marché de gros à la périphérie ouest de Cotonou, la modernisation de 20 marchés secondaires pour récupérer tout le commerce du détail de Dantokpa et la construction d'un mall pour récupérer ce que nous avons appelé le commerce noble, cosmétiques, tissus, bijoux. Donc nous aurons...
Mais à l'américaine ou à l'africaine ?
À l'africaine.
C'est quoi la différence ?
À l'africaine, si vous arrivez déjà, vous voyez que ce n'est pas des boutiques climatisées. C'est une galerie marchande, ventilée. Donc ce n'est pas le mall à l'américain, mais c'est une galerie. Il y a à côté la question de la gestion des déchets qui s'adresse à travers l'intercommunalité des 5 communes qui constituent aujourd'hui l'agglomération. Et là, la réflexion nous a poussé à mettre en place un établissement, une société de droit public dans laquelle l'État est actionnaire au même titre que les 5 communes qui sont concernées par l'espace. Et là, on récupère, on recrute un partenaire technique de référence qui sait faire la gestion des déchets. On recrute des prestataires de gestion des lieux d'enfouissement sanitaire. On met en place un réseau de collecte qui est totalement organisé et modernisé pour desservir les 5 communes.
Alors, vous avez prononcé le mot enfouissement, mais pas celui de recyclage.
Oui, nous avons prononcé le mot enfouissement parce que déjà, nous quittons la logique des décharges sauvages pour aller vers les lieux d'enfouissement sanitaire aux normes internationales. Mais vous savez très bien que entre la collecte et l'enfouissement, il y a le tri et la valorisation des déchets. Aujourd'hui, la problématique de valorisation des déchets est une, nous confine à une démarche un peu marginale. Parce que nous avons, sur l'agglomération de Cotonou, aujourd'hui 360 000, 380 000 tonnes de déchets et qu'il faut gérer. Traiter, on n'a pas le temps. Donc nous pensons que la démarche, la composante valorisation va s'intégrer progressivement dans le dispositif. L'urgence aujourd'hui, c'est la propreté de la ville.
Alors je vois Mohamed Sefiani, le maire de la ville de Chefchaouen, qui est une ville de 50 000 habitants au nord du Maroc, qui écoute bien attentivement. Vous, votre ville, dès 2010, le conseil municipal a voté à l'unanimité une décision visant à faire de Chefchaouen une ville écologique et durable. C'était il y a 8 ans, vous en êtes où aujourd'hui?
Depuis 8 ans, nous avons décidé, majorité et opposition, donc au niveau politique local, que notre ville devrait devenir une ville écologique, une ville durable. Et là, nous ne l'avons pas fait tout seul. Nous l'avons fait aussi en associant les actrices et les acteurs locaux de la ville, et notamment le tissu associatif, les professionnels, le secteur privé. Et c'était un défi pour nous parce que nous voulions que cet engagement ne reste pas lettre morte. Et c'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par avoir une vision. La vision, c'est important, et cette vision, il fallait qu'elle soit partagée. Et ça, ce travail, tout un travail que nous avons fait avec le tissu associatif, la société civile en général, et nous avons bâti ensemble une vision de ce que devrait devenir notre ville de Chefchaouen.
Concrètement, pour rester un petit peu sur les mêmes enjeux que Ouagadougou ou Cotonou, à Chefchaouen, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, puisqu'on est dans une émission Ville durable, mode d'emploi, pour rendre cette ville durable?
Justement. Tout d'abord, on a travaillé sur des services de base importants, tels que l'assainissement, par exemple, et l'eau potable. Maintenant, on est à 100%, même les quartiers périphériques de la ville, qui sont nés suite à l'exode rural, parce qu'on est entouré du monde rural, tout le monde est branché à l'eau potable. Cette affaire d'eau potable et les SAV et d'électricité, on a terminé. En termes d'assainissement liquide, on a bâti tout un réseau. Pratiquement les deux tiers ils sont terminés, le un tiers c'est en cours, du réseau d'assainissement. Et on a eu une station d'épuration, nouvelle génération, à bout activé, donc un grand investissement qui a été fait pour recycler, pour traiter l'eau, les eaux usées. Du point de vue énergie, nous avons fait tout un programme d'énergie durable, et notamment l'efficacité énergétique, l'usage des énergies renouvelables. On est maintenant en cours de généraliser les plaques solaires au niveau de tous les bâtiments municipaux. On avait décidé que tous les nouveaux bâtiments publics au niveau de la ville qu'ils soient des bâtiments durables, avec le système d'isolation, avec toutes les techniques pour qu'un bâtiment soit durable. Et on a créé un centre info énergie. Ça, c'est le premier centre info créé au niveau du Maroc. Et ça, c'est dédié à la sensibilisation et aux conseils pratiques pour utiliser l'énergie pour les citoyens, pour les élèves, pour les femmes, pour les professionnels et les entreprises. Et ce sont des conseils qui sont donnés à titre gratuit pour l'utilisation des énergies renouvelables et pour l'efficacité énergétique, pour les petits gestes que les citoyens devront faire et pour les architectes et les techniciens pour mieux concevoir les nouveaux bâtiments et les nouveaux aménagements. Nous avons fait un diagnostic exhaustif de l'éclairage public, tout le réseau, point lumineux par point lumineux, et nous avons une cartographie, nous avons un ICG, un système d'information géographique, et nous avons commencé à changer les lampes ordinaires avec les lampes à technologie LED.
Alors Armand Bewindé, comment est-ce que vous réagissez aux propos à l'instant du maire de Chefchaouen? Est-ce que vous vous dites que c'est plus facile pour une ville de 50 000 habitants que 3 millions? Ou alors les problématiques sont les mêmes?
Les problématiques sont les mêmes, mais la solution, l'approche n'est pas la même. Parce que quand on a une ville capitale où il y a plusieurs acteurs, souvent c'est la cohérence d'action sur le territoire qui pêche. Donc avec les centres de compétences, il y a les transferts de compétences souvent qui sont faits au niveau des villes, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. Le ministre doit savoir de quoi je parle. Mais ce que nous pouvons faire à notre niveau local, nous employons à le faire. Par exemple, l'adaptabilité des nouvelles infrastructures d'habitat. Hein, au niveau des infrastructures scolaires, nous sommes en train de mettre en place la technique de la voûte nubienne pour cette transition climatique.
Alors rapidement, il faut rappeler ce que c'est la technique de la voûte nubienne. Hein. Ce sont des constructions en terre.
Exactement. Voilà, ce sont des constructions en terre qui font appel à une haute intensité de main-d'œuvre locale avec une technique sans bois, sans fer, sans tôle et très peu de ciment. Donc, qui permettent dans ces habitats d'avoir un climat tempéré. Et également, dans une ville comme Ouagadougou, nous sommes à la porte du Sahel. Hein. Ouagadougou, c'est une ville qui est à la porte du Sahel. Donc, nous avons prévu de faire une ceinture verte. Et cette ceinture verte qui a été initiée, malheureusement, avec la démographie et l'urbanisation galopante, elle a été bouffée peu à peu. Et nous, notre volonté est de restaurer cette ceinture verte avec une participation des sociétés qui sont sur notre territoire et qui prennent des périmètres entiers et chaque année pendant la saison des pluies et font des reboisements.
Et ça marche bien.
Et ça marche très bien. Ouais.
Vous écoutez, c'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées.
Et cette semaine, il sous à Marrakech.
Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Super. Moi, j'adore à Marrakech. C'est bon?
Ouagadougou, on est fou. On n'est pas fou. Ouagadougou, on est fou. L'héritage du Burkina se partage à Ouaga. Alors tout le monde dira, comme il n'a pas Morena. Mais dans le contenu du testament, etc. Richesse pour les bourgeois et la miette pour les pauvres. Mais les riches et un gourmand. Prie toujours le bon Dieu pour qu'on disparaisse de la terre. Pour s'accaparer de nos miettes. Il des gars où laisse-toi mourir. Pour plus les enrichir. En tout cas, on souffre, c'est vrai. Mais mourir pour eux, on n'est pas prêt d'être. On en vive à la beauté. Chacun me pense.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, notre studio est installé dans la tente du service de presse sur la place Bab Djadid de Marrakech à l'occasion du 8e Africité, la rencontre des villes et des territoires du continent africain. Pendant 4 jours, les 5000 participants ont discuté des solutions à mettre en place pour faire des villes africaines des villes durables. Alors, vous l'avez évoqué, messieurs, il n'y a pas beaucoup de femmes là non plus dans cette émission. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'en inviter, mais je me rattraperai plus tard, on va dire. François Yatta, avec CGLU Afrique, vous battez pour que les villes aient accès au financement. Parce que vous l'avez mentionné, c'est quand même, on peut avoir plein d'envies, plein de projets, mais si on n'a pas d'argent, c'est compliqué. Alors, il faut rappeler que les villes n'ont pas accès aujourd'hui, statutairement, j'ai envie de dire, au financement des institutions internationales.
Oui, malheureusement, toutes les institutions financières panafricaines sont des institutions qui appartiennent aux États. Si vous prenez la Banque africaine de développement, les collectivités locales ne peuvent pas accéder directement. Mais cependant, la réflexion aujourd'hui a été lancée pour qu'à terme, les collectivités territoriales puissent avoir accès au financement. En réalité, le problème du financement des collectivités territoriales est structurel dans le sens où c'est quand même un type de financement qui est à long terme et qui demande des longs retours sur investissement. Vous savez, une banque classique, quand vous lui demandez un prêt sur 1 an, 2 ans, ça va. Mais quand vous lui demandez un prêt sur 15 ans,
oui, mais en même temps, des infrastructures de ville, voilà, ça ne peut pas être en emprunt, voilà, sur 2 ans.
Exactement. Et donc, c'est ça qui fait que ces banques-là ne sont pas adaptées au financement des collectivités locales. Donc, les banques de développement, notamment notre banque panafricaine, la Banque africaine de développement, devraient s'intéresser à ces questions-là, à l'instar d'ailleurs de toutes ses consoeurs des autres régions du monde qui s'intéressent à ces questions. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour la Banque africaine de développement, même si une réflexion aujourd'hui interne est en cours sur cette question.
Alors, ce n'est pas le cas non plus pour la Banque mondiale et d'autres institutions internationales. Autre difficulté pour les villes, il y a très peu d'impôts dans
alors,
les villes,
oui,
africaines.
Il y a très peu d'impôts. Vous savez, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous avez des populations qui disent, mais écoutez, on ne paye pas des impôts parce qu'on ne reçoit pas des services. Et de l'autre côté, effectivement, pour donner des services, pour fournir des services, il faut recevoir de l'argent. Et donc, c'est ce déclic-là, malheureusement, qui manque. Et c'est en cela que le budget participatif, effectivement, contribue de façon intéressante à lever cette contrainte-là.
Alors, Bachir Kanouté, c'est vous qui allez nous parler du budget participatif, parce qu'avec ENDA et Ecopop, vous essayez de l'implanter partout. Vous avez fait un atelier sur ce sujet hier à Africité. La salle était pleine à craquer. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
En réalité, le budget participatif, c'est un palliatif au manque de financement des collectivités, des villes africaines. Le constat est quoi? Le constat est qu'on est dans un cercle vicieux de l'incivisme fiscal. Les citoyens ne payent pas les impôts, il l'a dit tantôt, parce qu'ils ne voient pas les services qui répondent à leurs besoins. Ne payant pas les impôts, les maires n'ont pas de ressources pour faire les réalisations. Donc on est dans un cercle vicieux. Et l'approche exactement du budget, parce que c'est pour rompre ce cercle vicieux-là. Il n'y a pas de ressources, mais le peu de ressources qu'il y a, comment faire pour que les maires puissent l'orienter vers les besoins prioritaires des citoyens, de sorte à créer un déclic par l'éducation citoyenne en disant qu'on n'a pas de ressources, mais le peu qu'on a, on va le consacrer aux besoins prioritaires que vous avez définis et en profiter pour faire l'éducation citoyenne pour qu'ils puissent payer mieux d'impôts. Et ça, c'est une approche qui aujourd'hui touche plus de 600 villes africaines avec des fortunes diverses. Dans des grandes villes, on voit qu'il y a de bonnes avancées. Dans de petites villes, dans des villes très reculées, on voit aussi qu'il y a de bonnes avancées autour de services locaux qui ont des besoins prioritaires autour desquels il n'y a pas de ressources. L'approche, il peut se décliner autour de deux grandes étapes. La première, c'est comment planifier la ville et comment identifier les besoins prioritaires. Donc, toute l'approche de mobilisation et d'engagement des citoyens pour identifier ces besoins-là. Le territoire le plus proche des citoyens, c'est là où il faut commencer l'exercice. Et faire des approches bottom-up qui permettent d'identifier ces besoins, de faire discuter les citoyens, qu'ils puissent identifier eux-mêmes leurs besoins, qu'ils puissent analyser leur territoire et en fonction de cette analyse, qu'ils puissent se mettre d'accord sur quels sont les besoins qui s'expriment dans leur quartier.
Et là, ça recrée aussi de la confiance.
Exactement, et c'est cela l'enjeu, puisque l'approche du budget participatif permet de créer cette confiance-là qui n'existe plus. De plus en plus dans nos villes, bon, il y a
Une déconnexion, vous diriez, entre les élus et la population.
Exactement, un fossé qui se crée entre les citoyens et les institutions, et fossé qui va aller grandissant si les connexions, les bonnes connexions ne sont pas faites pour que le dialogue puisse s'instaurer et que les citoyens puissent avoir confiance à nouveau en leurs institutions. Deuxième étape qui est tout aussi importante, c'est comment rendre compte de ce qui se fait. Très souvent, dans des villes, on identifie que des maires font de bonnes réalisations, mais il n'y a aucun compte rendu auprès des citoyens, de sorte qu'ils ne se rendent
pas compte. Il y a un manque de communication.
Un manque de communication entre tout le volet redevabilité, qui est tout aussi important et qui, s'il n'est pas fait, la confiance ne peut pas être restaurée de manière durable.
Et à partir de quand les citoyens mettent de l'argent? Parce qu'on parlait de financement.
Alors, les citoyens mettent de l'argent s'ils se rendent compte que cet argent va aller vers leurs besoins. Mais si, évidemment, l'argent ne va pas dans ces secteurs-là qui sont identifiés, évidemment...
Donc ça, c'est pour la théorie. Vous disiez, c'est mis en route dans plus de 600 villes en Afrique. Est-ce qu'il y a des grosses villes qui s'y sont mises et vous pouvez nous donner des exemples qui fonctionnent?
Des grosses villes, oui. Vous allez en Tunisie. La ville de Tunis a déjà mis en œuvre. Vous allez à Johannesburg, la ville de Dakar. Plusieurs grandes villes africaines ont déjà expérimenté avec des fortunes. À Kinshasa, où on voit que là, il y a des difficultés du point de vue normatif puisque les textes ne sont même pas en place, mais dans cette absence de texte, de loi qui réglemente, avec l'absence d'élus, faute d'élection, on voit que l'approche est en train d'être mise en œuvre avec des fortunes diverses, avec des créations qui sont en train d'être faites.
Armand Mbeywindé, vous êtes le maire de Ouagadougou et le président de l'Association des municipalités du Burkina Faso. Donc comment est-ce que vous voyez cette problématique du financement? Est-ce que le budget participatif est quelque chose qui prend de l'ampleur au Burkina?
Oui, il faut dire que la ville de Ouagadougou a expérimenté il y a de cela une quinzaine d'années la méthode du budget participatif avec des résultats probants. Et aujourd'hui, le problème de financement, c'est un problème vraiment structurel. Mais moi, je pense que la solution doit être une solution, endogène. C'est vrai, aujourd'hui, les collectivités n'ont pas accès au crédit sans l'aval de l'État. Mais nos États, c'est comme l'expérimentation que nous sommes en train de faire au Burkina Faso, c'est de créer des caisses d'investissement au niveau de l'État qui sont ouvertes aux collectivités territoriales, où ces collectivités peuvent emprunter et à des taux concessionnels et pour pouvoir faire les gros investissements.
Sinon, l'État sert d'intermédiaire, en fait.
Non, l'État sert d'intermédiaire, mais l'État et les collectivités peuvent mettre en place cette banque de développement qui va permettre aux collectivités d'avoir accès au financement. Sinon, les banques comme les banques de développement panafricaines qui existent, c'est vrai qu'ils interviennent beaucoup dans nos collectivités, mais c'est sous la forme de l'État qui emprunte et qui rétrocède après aux communes, mais en nous donnant les orientations, c'est-à-dire les projets, c'est eux qui le conçoivent et nous participons à la mise en œuvre.
Monsieur le maire de Chefchaouane, vous avez fait comment pour les financements?
Oui, non, déjà par rapport au budget participatif, nous sommes parmi les premières villes au Maroc qui ont expérimenté cet outil, cet instrument de la démocratie participative, et ça donnait des résultats très probants. Je crois toujours au financement, au mode de financement durable. Tout d'abord, il y a tout ce qui est local. Nous aussi, nous avons une responsabilité d'améliorer notre capacité à récolter déjà les taxes locales dont nous avons la responsabilité. Et là, il faut de renforcement de capacité, de faciliter les procédures en interne, etc. Une organisation interne qui sera plus efficace. Et chaque fois, nous fixons des objectifs de recettes locales sur la base que nous recouvrons nous-mêmes.
Ça veut dire, par exemple, qu'il faut faire un inventaire des habitants, qui habite, à quel endroit, quelles sont les structures des familles.
Exactement.
Mais tout ça, c'est extrêmement compliqué.
Je pense que l'enjeu, c'est les villes africaines doivent connaître leur assiette. Où est-ce qu'ils peuvent avoir des ressources? Je peux dire que ces villes ne sont pas pauvres. Par contre, il y a beaucoup de mécanismes d'appauvrissement qui ont été mis en place exactement pour qu'ils ne puissent pas mobiliser ce potentiel-là. Parmi ces potentiels, c'est l'assiette fiscale. Où est-ce qu'on va prendre les ressources fiscales? Auprès de qui on va le prendre? Et si on identifie, quelles sont les stratégies qu'on développe pour aller effectivement les mobiliser? Je pense que sur toutes ces chaînes-là, Il y a beaucoup de travail à faire que les collectivités territoriales ne peuvent pas faire aujourd'hui.
Donc il y a tout ça. Améliorer notre performance en termes de recouvrement, puis au niveau un dialogue constructive avec le gouvernement national. Et là, bien sûr, chaque fois, le gouvernement national, dans le cadre de conventions spécifiques, d'infrastructures, etc., nous pouvons avoir plus de subventions pour pouvoir faire face aux attentes des citoyens en termes de services, en termes d'infrastructures. Par exemple, au Maroc, il y a une partie de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est collectée par l'État et qui est renversée aux collectivités territoriales. Mais nous, bien sûr, on demande beaucoup plus. Au niveau international, et là, ce qu'a dit François, maintenant, il est le temps de voir ce sujet-là en profondeur, c'est l'accès aux financements internationaux. On parle du fonds vert, on parle d'un certain nombre de fonds, mais l'accès des villes et des gouvernements locaux et régionaux n'est pas évident. C'est pour cela, en termes de lobbying que nous faisons au sein du CGLU Afrique, au sein du CGLU Monde, vis-à-vis des institutions international, nous pouvons à l'avenir et très bientôt avoir l'accès direct au financement. Nous venons de créer une task force au niveau de CGLU Afrique sur le financement climat et beaucoup d'institutions vont nous accompagner.
Ça fait longtemps que les villes le réclament. Hein.
Ça fait longtemps et le fonds vert, les milliards, on les a entendus lors de la COP21 en décembre 2015. Donc ça fait 3 ans, on n'a pas vu l'argent. On a entendu parler du fonds, on n'a pas vu l'argent au niveau territorial. Même les citoyens, ils nous disent, les milliards, ils sont où? Et nous, où est notre part pour faire face au changement climatique? Je crois que là, c'est un travail de fond qui devrait être fait. Les premiers pas, ils sont déjà là, mais nous devons faire un grand lobbying dans ce sens-là.
François Yatta.
Oui, moi je pense que de manière globale, l'étroitesse des financements alloués aux villes n'a d'égal que la part consacrée aux villes dans les réflexions au niveau national par les principaux acteurs nationaux. Moi j'ai souvent tendance à dire que la ville africaine est niée. Elle est tout simplement niée parce que je vois encore des conférences sérieuses au niveau régional ou national en Afrique où on parle de l'Afrique à 80% rurale. Mais ça, c'est dépassé depuis. L'Afrique n'est plus à 80% rurale.
Non, je le disais, c'est 45% des Africains qui habitent en ville aujourd'hui et c'est voilà, un chiffre qui grossit de plus en plus. Voilà.
Et donc, du coup, la ville d'entrée peu de pays, nous avons fait le point sur tous les pays africains, les 54 pays africains, on a à peine une dizaine de pays qui ont une véritable stratégie urbaine. Quand vous partez voir la Banque africaine de développement, par exemple, vous regardez le portefeuille consacré aux questions urbaines, ça ne vaut même pas 10%. Et quand vous demandez pourquoi, on vous dit, mais parce que les États ne nous demandent pas de financement sur les villes. Ils ne demandent pas. Alors, comme nous appartenons aux États, on n'a pas de demande, on ne peut pas faire autrement.
José Tonato, au niveau du Bénin, c'est quoi la politique de la ville?
Ça, c'est une bien grande question.
Parce qui que vous embarrasse peut-être ou...
Qui m'embarrasse beaucoup, mais la réflexion est en cours. D'ailleurs, pour enrichir notre démarche, nous avons signé en octobre de cette année un protocole d'accord avec le ministère marocain en charge de la politique de la ville, de la même territoire. Cette politique se développe aujourd'hui tant sur le plan de la décentralisation que sur le plan de l'approche à évoluer vers une gouvernance responsable. La politique de la ville est basée sur ça. Les responsables au niveau local sont au cœur de toute la démarche. Depuis la conception, l'État est conscient que la question du financement reste une question difficile. S'il la résout, il faut que la commune soit associée et qu'elle soit responsabilisée sur la suite. C'est pour ça que la plupart des projets qui ont été initiés dans le cadre du programme d'action du gouvernement ont fait une part importante aux questions du cadre de vie et de développement durable. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un ministère qui s'appelle cadre de vie parce que le cadre de vie est presque comme la colonne vertébrale du programme d'action du gouvernement. C'est le terrain sur lequel on a le ressenti de l'action du gouvernement. Et dans ce cadre de vie, là, il y a des projets majeurs. J'ai parlé de la gestion des déchets, j'ai parlé des infrastructures pour lutter contre l'assainissement pluvial. Il y a le projet qu'on a appelé emblématiquement asphaltage, mais c'est un programme d'amélioration de plus de 200 km de voirie urbaine dans 9 villes, dont Cotonou, qui est la grande agglomération qui détient le tiers. Et Sur ces 200 km, nous déployons près de 12 000 lampadaires solaires. Donc, nous intégrons également la question des énergies renouvelables.
Non, mais c'est très bien que l'État se préoccupe des villes, mais c'est vrai, et on l'entend à travers les témoignages des verts.
Oui, j'en viens, c'est ce que je disais.
Généralement, l'État intervient dans nos villes sans...
Armand Bewindé.
Voilà, sans nous impliquer.
Si
alors que le travail en ville est un travail d'abord urbain, ce n'est pas un travail d'infrastructure.
C'est vrai qu'il n'y a pas mieux placé que les maires pour connaître leurs besoins locaux.
Je peux donner des exemples précis. C'est un programme gouvernemental mais qui a démarré par une réunion du chef de l'État avec les 5 maires des communes.
Mais ça, quand vous dites les 5, du coup, ce n'est pas l'ensemble de toutes les villes du Bénin.
Non, je parle d'un exemple du projet sur le Grand Nokwe, la grande agglomération de Cotonou qui comporte 6 communes. Les choix prioritaires ont été soumis à chaque commune. La convention cadre a été discutée avec chaque maire. Et nous sommes en train de développer aujourd'hui des conventions spécifiques pour gérer les déchets, pour gérer la voirie, pour gérer l'assainissement et les marchés urbains. Et je vous jure que les maires ne font pas de cadeaux. Il y a des maires qui ont signé, d'autres n'ont pas signé, ils ont fait des amendements. On est revenu parce que, in fine, nous voulons rétrocéder la gestion de tous ces projets-là à la mairie. Ce n'est pas l'État qui gère. Et ce que j'ai toujours apprécié dans le budget participatif, c'est qu'il a une dimension de transparence, de reddition de comptes et donc de prise en compte du besoin à la base, des besoins réels. Nous arrivons certainement là comme un outil de planification financière de la commune, mais aujourd'hui, nous sommes totalement à l'aise parce que on a des tests de décentralisation qui sont restés muets. Tout le monde en parle, comme au Bénin, on parle là de vaudou, quelque chose qui est là, mais qu'on n'opérationnalise pas. Aujourd'hui, en rentrant dans les conventions cadres et les conventions spécifiques, on s'est rendu compte que nous avions besoin d'outils réglementaires pour que la décentralisation soit opérationnelle. C'est ce qu'on est en train de faire à travers les projets phares du programme d'action du gouvernement.
Ville durable, mode d'emploi dans C'est pas du vent. On continue notre conversation avec nos invités à Marrakech juste après une petite pause musicale. C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Marrakech à l'occasion du 8e sommet Africité qui rassemble tous ceux qui travaillent sur les villes et territoires du continent, le cœur battant de l'Afrique locale en mouvement, comme aime le dire Jean-Pierre Elongbassi, l'organisateur de l'événement, un mouvement qui est handicapé par l'impact des changements climatiques qui touche de plein fouet le continent africain. Or, selon un rapport que vient de publier l'Organisation météorologique mondiale, les niveaux de gaz à effet de serre ont atteint un niveau record dans l'atmosphère et la fenêtre d'opportunité pour agir est presque fermée. Armand Bewindé, vous êtes le maire de Ouagadougou. Est-ce que vous ressentez les conséquences des changements climatiques ?
Ah oui, nous les ressentons.
C'est un frein.
Oui, c'est un frein au développement parce qu'aujourd'hui, les saisons sont complètement déréglées. Et quand vous voyez le cycle d'inondation que nous avons connu à Ouagadougou, donc nous prenons conscience que si nous n'agissons pas aujourd'hui sur notre environnement de vie, comme aiment à le dire les grands penseurs, il n'y a pas de plan B. Donc chacun doit prendre conscience que ce sont les petits gestes qui vont changer complètement cette donne.
Oui, et puis il y a aussi la question des ressources en eau. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, Ouagadougou est une ville qui grossit, qui va doubler en 10 ans. Or, vous dépendez étroitement des ressources en eau potable. Il y a quelques inquiétudes à moyen terme, hein, pas pour demain.
Oui, mais il y a des inquiétudes même aujourd'hui parce que les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou ont difficilement accès à l'eau parce que le réseau ne peut pas s'étendre indéfiniment. Nous sommes obligés d'aller chercher l'eau à plus de 200 km de la ville de Ouagadougou pour la drainer vers la ville. Donc c'est pour vous dire que ce sont des problèmes vraiment cruciaux, quoi.
Mohamed Sefiani, à Chef Chaouen, dans le nord du Maroc, vous subissez aussi les conséquences
des changements
climatiques.
Oui, exactement. Même si on est dans une région où la pluviométrie est importante, mais nous avons par exemple une source, pour parler de l'eau, une source de l'eau qu'un débit il arrive à 1300 litres secondes, mais il descend jusqu'à 60 litres secondes pour une année où il y a la sécheresse. Et là, avec la pression que nous avons, parce que nous recevons trois fois le nombre d'habitants Chaouen en termes de touristes, donc en recevant 150 000 touristes par an, il y a cette pression-là.
C'est vrai que j'ai vu des photos de votre ville, elle a l'air très belle. Hein.
Merci beaucoup, oui. Elle vient d'être classée parmi les top 20 des plus belles ruelles du monde. Donc je dis, il y a cette pression-là. Et maintenant, nous avons un projet que l'État marocain, avec bien sûr nous collaborons, de sécurisation de la ville en eau potable, en faisant amener l'eau, en le traitant, le pompant, toute l'infrastructure, 14 millions d'euros seulement pour la ville de Chaouen, pour sécuriser l'eau. Là, c'est une des conséquences du changement climatique. Nous avons un problème d'inondation. Parfois, on reçoit de la pluie en dizaines de minutes, ce qu'on reçoit en 6 mois. Et là, c'est vraiment, il y a beaucoup de risques d'inondation dans un certain nombre de quartiers. Donc, nous aussi, nous vivons les effets négatifs des changements climatiques.
José Tonato, au Bénin aussi, il y a les effets des changements climatiques. On parle régulièrement des inondations. En plus, bon, si on revient sur Cotonou, c'est une ville qui est coincée quand même entre la mer qui grignote avec l'érosion côtière plusieurs mètres par an et le lac Nokoué juste au-dessus.
Exactement, vous venez de dire les deux enjeux forts. Le changement climatique aggrave un peu le phénomène d'érosion côtière. Et là, on est en train de finir la deuxième phase de la protection côtière de l'agglomération de Cotonou. Et ensuite, il y a les inondations. Les inondations parce que le Bénin, sur le plan géographique, est coupé en deux zones atmosphériques. Et dans la deuxième partie de l'année, les eaux qui arrivent du nord descendent sur le sud, gonfle le lac Nokoué, le lac Aimé, et génère encore d'autres inondations sur la ville de Cotonou. Voilà pourquoi le plan d'assainissement pluvial, qui a fait l'objet de plusieurs tentatives de financement depuis pratiquement 30 ans, a été finalement bouclé cette année, en janvier 2018. Et aujourd'hui, nous rentrons dans un process de 5 ans au bout desquels nous aurons un schéma, un dispositif d'assainissement pluvial primaire et secondaire de la ville totalement mise en place.
Mais plus globalement, est-ce que la ville de Cotonou, excusez-moi de poser cette question de façon un peu crue, mais a réellement un avenir à long terme? Parce qu'on dit que Cotonou, c'est un peu une ville qui coule aujourd'hui.
Je ne suis pas du tout de votre avis. Je ne partage pas votre avis.
Ce n'est pas moi, hein, c'est certains scientifiques.
Non, la planification est remise au cœur de notre préoccupation. Et les investissements qui se font aujourd'hui sur Cotonou, 80 km de voirie aménagée et pratiquement tout le réseau de drainage mis en place, la gestion des déchets totalement maîtrisée. Je crois que Cotonou a un bel avenir et va retrouver vraiment ses lettres de noblesse avec l'aménagement du plateau d'Abomey-Calavi qui est le plateau nord-ouest de l'agglomération qui accueille aujourd'hui la plupart des infrastructures à caractère national et régional comme l'aéroport, comme le marché de gros. C'est un peu le poumon de respiration de l'agglomération, de la ville de Cotonou. Et nous utilisons tout l'écosystème de Cotonou. Les berges de la lagune vont être totalement aménagées. Il y a une voie lagunaire qui va s'implanter. Il y a un grand une voie autoroutière de contournement de l'agglomération pour gérer tout le trafic des camions qui aujourd'hui drainent dans la ville, tout ça, en connexion avec le port. Et puis, la stratégie de la mobilité urbaine également se met en place.
Il va falloir faire vite, hein, parce que là, les chantiers que vous décrivez sont colossaux.
Oui, la ville durable, vous savez, c'est une question de longue haleine. Il faut adresser sérieusement les préoccupations et apporter des solutions durables pour que, dans nos comportements également, nous ayons des attitudes vis-à-vis de cette ville durable-là, qui est très exigeante vis-à-vis des citadins. Ce que nous n'avons pas encore. L'éco-citoyenneté également doit s'implanter pour que vraiment on soit fier de vivre dans une ville. Une ville, vivre dans une ville durable, ce n'est pas seulement des droits seulement, c'est des devoirs.
Bachir Kanouté.
Je pense qu'il faut remonter à l'origine. C'est-à-dire que si on fait le constat aujourd'hui, et ça, les derniers rapports du programme des Nations Unies pour les établissements humains l'ont clairement clarifié, l'Afrique subit comme une injustice climatique. L'Afrique est responsable de 4% de la production des émissions de gaz à effet de serre. Et sur les 25 villes les plus touchées par les changements climatiques, 15 sont en Afrique. Donc c'est sans commune mesure. La conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence de ça, c'est dans ces villes, on a les inondations. Quand on regarde à travers l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, Nabeul, en Tunisie, Madagascar, Congo, Kinshasa, où il y a eu plusieurs, je pense, une quarantaine de morts, Dakar. Et donc plusieurs villes sont en train de subir ces conséquences-là. C'est aussi la désertification. C'est aussi l'érosion côtière. Quand on part sur des côtes au Sénégal, par exemple, on a l'érosion est de 3 mètres par année.
C'est, on le voit immense. Aussi à Cotonou, jusqu'à 15 mètres même par an.
Donc, voilà, ouais. Les pics de 15 mètres. Donc voilà, ça c'est les conséquences qu'il faut faire. Pour faire face à ça, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut des actions à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la planification à long terme. Et ça, très souvent, ça manque dans nos villes. Les gens n'ont pas des documents de planification pour dire dans 15 ans, dans 20 ans, comment est-ce que ces différents impacts peuvent être pris en charge et comment est-ce qu'ils peuvent être résolus. Et donc, planification à long terme. Et le deuxième niveau, c'est les investissements à court terme. Et dans ces investissements à court terme, c'est vrai que les villes n'ont pas de ressources, mais peut-être qu'il y a aussi certains mécanismes qui ne sont pas encore suffisamment bien exploités pour le financement de ces infrastructures pour faire face au changement climatique. C'est par exemple la responsabilité sociale d'entreprise. Dans beaucoup de villes, il y a des entreprises qui s'installent. Bon, je pense qu'à Cotonou,
à Ouagadougou, bon, ils utilisent pour la ceinture verte.
C'est aussi le financement par la diaspora, le partenariat public-privé. Donc, tout un ensemble de mécanismes qui sont là, qui ne sont pas encore suffisamment bien exploités pour prendre en charge des investissements à court terme.
François Yatta, rapidement.
Je voulais juste dire que quand on met tout ça à l'échelle, on se rend compte comment ça va devenir crucial. Tout à l'heure, le maire de Ouaga disait que la ville de Ouaga, c'est 200 000 personnes en plus. On ne se rend pas compte, hein, par an en plus. Vous savez, Paris a mis un siècle pour passer de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Aujourd'hui, la ville de Paris intramuros décline en termes de population. Dans les 30 prochaines années, ce qui est attendu dans les villes africaines, c'est l'équivalent de deux fois la population totale de l'Europe des 28, qui vont venir s'ajouter à ce qui existe déjà. Donc tout ça va augmenter les vulnérabilités. Et quand on parle de planification, moi je dis la première chose à faire, c'est déjà d'avoir une stratégie nationale. Je disais tout à l'heure que quand nous avons fait le point sur la cinquantaine de pays, on a à peine 10 pays qui ont une véritable stratégie urbaine et 5 qui l'ont avec tous les moyens techniques et financiers nécessaires. C'est là qu'il faut mettre l'accent, vraiment mettre les choses à l'échelle de toute cette vague humaine qui va arriver dans les villes africaines et qu'il va falloir gérer.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et l'installation de ce studio, à Claude Lisbonis pour la préparation de ces émissions et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.